Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Voilà Couleur FM, le 97.1 FM dans le Nord-Isère. Nous retrouvons notre rendez-vous habituel cette semaine avec les candidats aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains, où vous aurez rendez-vous au bureau de vote pour choisir nos futurs députés. Futurs députés, alors on en reçoit un peu plus d'une vingtaine cette semaine à Couleur FM pour les 6e et 10e circonscriptions de l'Isère. Et cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Monsieur Clément Vol.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être venu. Parmi nous, Clément Vol, vous représentez l'UPR. Alors, qu'est-ce que c'est l'UPR ?
Alors, l'UPR, c'est l'Union Populaire Républicaine. C'est un parti qui a été fondé il y a maintenant un peu plus de 10 ans par Monsieur François Asselineau. C'est un parti que le ministère de l'Intérieur classe en divers, donc au-dessus du clivage droite-gauche, en vue d'un objectif prioritaire qui est la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, afin de retrouver notre souveraineté pour mener une politique saine.
D'accord. Alors, avant de continuer plus loin dans le programme de l'UPR, est-ce que vous pourriez nous dire simplement en quelques mots qui vous êtes, d'où vous venez, pour vous présenter aux auditeurs de cette 10e circonscription et du Nord-Isère.
Donc, je m'appelle Clément Vol, j'ai 27 ans, et je travaille dans la menuiserie aluminium.
Dans la menuiserie aluminium, très bien.
Oui.
Et vous êtes engagé politiquement depuis longtemps ?
Depuis quelques années, oui. 4-5 ans environ.
D'accord, en tout cas, votre engagement politique, c'est l'UPR directement. Vous êtes jeune,
hein ? J'étais auparavant là et dans d'autres partis qui sont plus situés politiquement, mais j'ai adhéré à l'UPR il y a environ 4 ans.
D'accord. Environ. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré à l'UPR ? Parce qu'en fait, on ne connaît pas encore bien l'UPR. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous attire dans cette formation politique qui est assez neuve.
Assez neuve, oui et non, puisque ce parti a comme été créé il y a maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a maintenant 10 ans. Monsieur Asselineau, qui a fondé ce parti, il a été assez ignoré des médias de masse, puisqu'il a été médiatisé essentiellement avec la présidentielle, et le temps de parole qu'il a eu n'était que de 1%. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très injuste par rapport à d'autres candidats comme Monsieur Macron, qui a eu une couverture médiatique insensée depuis maintenant plus d'un an et demi. Et donc l'UPR, ce qui m'a attiré à l'UPR, c'est que Monsieur François Asselineau, depuis maintenant plus de 10 ans, fait plus de 500 conférences dans toute la France, des conférences qui durent en moyenne 4 heures, qui vont vraiment au fond des choses. Donc c'est ce côté-là, vraiment très pédagogique, qui m'a intéressé. Et Monsieur Asselineau va vraiment au fond des choses, et tout ce qu'il dit est sourcé, et tout ce qu'il dit peut être retrouvé. Donc ce sérieux m'a vraiment...
Retrouver, ça veut dire qu'il le publie sur son site internet
Oui, enfin, mais même lors des conférences, en même temps qu'il parle, il cite la source.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment quelque chose...
C'est sérieux.
Oui, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très sérieux. Et, il y a une bonne dizaine de conférences en ligne qu'il a faites, et ces conférences vont tout au fond des choses, et ces conférences ont pour point commun d'expliquer l'escroquerie de l'Union européenne.
Alors, dites-nous, c'est quoi cette escroquerie de l'Union européenne ? Alors, on a bien compris qu'effectivement, M. Asselineau et l'UPR se fondent vraiment sur une critique fondamentale de l'Union européenne.
Oui. Alors, cette escroquerie qui est l'Union européenne, c'est le principe insensé de vouloir forger une union de 27 pays, puisque maintenant la Grande-Bretagne va s'en aller, et les forcer à mener une même politique commune. Et étant donné que chaque pays a des intérêts qui sont totalement différents, des histoires qui sont totalement différentes, vouloir forcer plusieurs pays à mener une politique qui n'ira forcément pas à tout le monde est vraiment de la folie.
Mais justement, alors, par contre, j'imagine que l'Europe, enfin, dans ce que je connais de l'histoire, c'est justement parce qu'il y avait tant de pays qui avaient des intérêts différents qu'on a voulu faire l'Europe pour faciliter la paix et les échanges, non ?
Mais non, ça là, c'est un argument qui nous est avancé assez souvent. Concernant la paix n'a pas été assurée par l'Europe ni non plus là, et par les diverses réglementations européennes. mais par le fait que les divers pays ont l'arme nucléaire, ce qui maintient la paix.
Ça, c'était le cas pendant la guerre froide, plus aujourd'hui.
Ah si.
Si, parce que le fait d'avoir des intérêts communs, justement, à travers l'Europe, fait qu'on n'a pas du tout intérêt à se faire la guerre, non ?
Concernant la concurrence entre les pays, la construction européenne, au contraire, l'exacerbe. C'est puisque chaque pays essaye de changer l'Europe à sa façon, sauf que changer l'Europe, d'après l'article 48 du traité de l'Union européenne, nécessite l'unanimité des pays.
Donc, tous les pays ont envie de tirer la couverture un peu à lui, c'est ça ?
Et oui, voilà, en fait, là, c'est parce que là, par exemple, pour citer des exemples qui sont assez opposés, par exemple, la Pologne, qui profite actuellement très largement du libre-échange, et notamment de l'article 63 qui interdit d'imposer une quelconque restriction que ce soit au mouvement de capitaux entre les États membres et les États tiers, ce qui empêche de lutter par exemple contre les délocalisations ou la fraude et l'évasion fiscale. Donc par exemple, un pays comme la Pologne qui profite très largement de cet article ne sera jamais d'accord pour qu'on y touche. C'est contrairement aux Français qui eux, ils sont assez opposés, puisqu'on le voit actuellement, les délocalisations créent des drames comme assez importants, et actuellement, il y a entre 800 et 1000 personnes par jour qui passent sous le seuil de pauvreté.
D'accord. Alors donc, la solution que l'UPR porte, c'est vraiment la sortie de l'Europe inconditionnelle. Oui, voilà. Parce qu'on voit d'autres candidats qui disent on négocie, etc., oui, oui. etc. Vous, c'est la sortie inconditionnelle dans la même à peu près condition que l'Angleterre vient de faire.
Mais on se sert en fait de l'article 50, c'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui permet à un pays de sortir de l'Union européenne en 2 ans maximum. Quelle que soit l'issue des négociations, le pays, au bout de 2 ans, peut sortir.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après ?
Alors ensuite, après, on peut mener une petite scène. Comme par exemple, en créant une taxe verte à l'importation, qui est une taxe sociale et environnementale sur les importations importées ayant des standards écologiques et sociaux de production plus faibles que nos exigences françaises. Ce qu'on ne peut actuellement pas faire dans l'Union européenne, puisque la Commission européenne vraiment... bloque ce genre de mesures de protection. On pourra aussi supprimer la directive des travailleurs détachés qui concerne actuellement entre 300 000 et 400 000 emplois.
C'est quoi la directive
en fait, cette directive-là permet à des travailleurs étrangers de venir travailler en France.
C'est le plombier polonais.
Oui, voilà.
Pour reprendre l'exemple de la Pologne que vous preniez justement.
Oui, voilà. Pardon.
Alors, du coup, sortir de l'Europe comme ça demande effectivement... Alors, ça va permettre d'appliquer différentes mesures, effectivement, sur des choses que vous disiez un petit peu insensées. Mais en même temps, comment on rétablit les équilibres financiers, budgétaires qui vont être complètement déstabilisés ? Est-ce que la France a la force de se remettre économiquement, socialement, d'une sortie de l'Europe ?
Oui, mais je profite de cette question pour dire, le chaos, c'est si on reste dans l'Europe, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il y a actuellement entre 800 et 1000 personnes par jour qui passent sous le seuil de pauvreté, il y a une entreprise qui ferme par jour. Mais nous pourrons également faire des économies, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, l'article 63 nous interdit d'imposer une quelconque restriction que ce soit au mouvement de capitaux entre les États membres et les États tiers. Donc si on sort de l'Union européenne, nous pourrons lutter plus efficacement contre la fraude fiscale et récupérer environ 20 milliards d'euros par an. Il y aura également des économies indirectes sur le coût d'application des normes européennes pour les administrations publiques qui sont de 8,7 milliards d'euros. Il y a des économies indirectes sur le coût d'application des normes européennes pour les entreprises qui sont de 30 milliards d'euros. Il y a également des économies directes de 9 milliards d'euros, puisque actuellement on donne 23 milliards d'euros à l'Union européenne et elle nous en restitue 14 sous forme de subventions diverses.
Donc on en perd 9.
Oui.
D'accord. Et donc tout ça peut permettre à la France de s'en sortir, même sans ses alliés. Et ensuite, on reprend le commerce avec les autres ou on reste en autarcie ? Comment on fait ?
Oui, voilà, on reprend le commerce avec les autres, sauf que ce sera un commerce qui sera équitable, qui sera profitable vraiment aux différentes parties.
D'accord, mais avec des taxes donc pour des produits qui arrivent, comme on a pu voir dans le passé, mais donc aussi avec le risque de se faire taxer les exportations. Ouais.
Oui, voilà.
Mmh. D'accord, mais avec l'espoir d'arriver à une balance claire. Alors,
mais excusez-moi, ouais. Je profite juste de cette question pour dire que si nous sortons de l'euro, nous aurons le contrôle de notre monnaie et nous pourrons déprécier le nouveau franc qui sera créé de l'ordre de 10%, ce qui rendra les exportations françaises plus compétitives. Les importations, certes moins compétitives, mais on apporte actuellement environ 30% des produits, donc ce n'est pas aussi énorme que ça. Et cela aura pour conséquence de relancer la croissance.
Oui, avec une petite perte de pouvoir d'achat entre-temps, non ?
Non, c'est puisque, contrairement à ce qu'on peut nous dire, il n'y aura pas 10% de baisse du pouvoir d'achat, car cela supposerait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les produits consommés fussent importés. Donc cela signifiera que la hausse des prix sera au maximum de 3%, et sauf que dans un marché qui est quand même très concurrentiel, la hausse serait en réalité bien moindre. On n'a d'ailleurs pas vu les prix augmenter significativement quand l'euro s'est déprécié de 1 euro égale 1,30 à la mi-14 à 1 euro égale 1,06 au début mars 2007, soit une dépréciation de 18,5%.
Mmh. Donc cela ne posera pas de souci. Alors passons à d'autres domaines parce que le temps passe dans cette courte interview et passons à d'autres domaines que l'économie. Si demain l'UPR que vous représentez et de Monsieur Asselineau avait un nombre suffisant de députés, quels sont les thématiques qui porteraient le plus qui seraient le plus portées par un gouvernement, par exemple UPR, est-ce que par exemple dans le domaine de la culture, qu'est-ce que le programme de l'UPR nous propose?
Alors concernant la culture, nous proposons par exemple de créer un service public de l'information et de la culture qui sera indépendant et doté de moyens lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice. Donc ce service public sera chargé par la loi de favoriser la qualité des débats publics, l'élévation de la culture générale et l'éducation de tous, en offrant une information et des programmes de qualité, comme par exemple la culture, les arts, l'histoire, la science, etc.
Donc quelque chose qui reprendrait le principe du ministère de la Culture, mais à qui on donnerait une indépendance accrue, c'est ça ?
Oui, voilà.
D'accord. Et qui assurerait à la fois les missions du ministère de la culture et de la communication, pardon, concernant tant effectivement les arts, le spectacle vivant, les médias, etc., etc.
Oui.
D'accord. Et comment on peut assurer, garantir son indépendance à cet organe ?
En nommant des personnes qui sont
un peu comme sur le même modèle que le CSA actuellement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, on nomme des membres qui deviennent ensuite indépendants ou...
Oui, voilà, enfin, puisque vous parlez du CSA, nous, là, justement, si nous proposons de transformer le CSA en une cour supérieure de l'audiovisuel qui sera composée de magistrats qui seront aussi indépendants de tout pouvoir.
Des magistrats qui serviront à quoi ? Vous faites peur aux journalistes que je suis. pour juger en fait des abus des médias ou...
Pour juger de certains abus des grands médias, oui.
D'accord.
Qui par exemple on a vu. On l'a vu très dernièrement, qui ont fait la promotion de M. Macron.
Oui, mais c'est un peu dangereux pour la liberté de la presse, non ?
Et c'est banal, justement, c'est parce que là, concernant la liberté de la presse, nous proposons aussi, à propos de ça, d'établir le principe de la liberté de la presse, que ce soit à l'égard de l'État ou des puissances d'argent.
C'est-à-dire en reprenant les termes du programme du Conseil national de la Résistance qui disait que les médias devaient, la presse devait être indépendante des pouvoirs politiques et des puissances d'argent, c'est bien ça ?
Oui, voilà, et aussi par rapport à ça, nous proposons par exemple d'interdire toute prise de contrôle des médias, que ce soit par les fonds de pension ou des groupes ou conglomérats multinationaux.
D'accord. N'empêche que cette cour de justice pour les médias est impressionnante, oui.
Non, puisque cette cour sera surtout chargée de veiller à une certaine impartialité.
D'accord. Très bien. Alors, il nous reste encore assez peu de temps. Le chronomètre défile, c'est 3 minutes 40 maintenant. Est-ce que vous avez des thématiques, des lignes que vous souhaiteriez absolument aborder pour convaincre nos auditeurs, vos électeurs, de voter pour vous les 11 et ou 18 juin prochains, oui.
Oui, donc j'aimerais revenir sur la question européenne et en particulier celle des GOPE. Ce sont les grandes orientations politiques et économiques, ce sont des directives qui nous sont imposées par la Commission européenne. Et ces directives-là imposent par exemple la baisse du SMIC, la baisse des prestations chômage, la baisse des retraites, mais également la hausse des impôts et des taxes. C'est comme on le voit actuellement, on parle d'augmenter la CSG.
Mmh. Et donc ça, c'est l'effet de ces grandes orientations de politique économique,
oui.
Et qui sont les choses que vous dénoncez, que vous dénoncez constamment, c'est-à-dire tous ces objectifs européens qui, pour vous, ne sont pas adaptés à notre pays, c'est ça ?
Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Et j'aimerais aussi revenir aussi sur un autre point qui est important, qui est le CETA. C'est un traité de libre-échange avec le Canada. Et la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé à l'ordre la Commission européenne en rappelant qu'il fallait quand même l'accord des 38 parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne pour pouvoir le ratifier. Et ce CETA donnera vraiment un très gros pouvoir aux multinationales, puisque avec ce traité, un tribunal qui se placera au-dessus des lois nationales et internationales sera créé et composé de juges, d'avocats, etc., qui sont totalement à la botte des multinationales. Et les multinationales auront le droit d'attaquer les États devant ces tribunaux pour quoi que ce soit qui leur dérangerait. Et en général, ça se solde par des amendes de centaines de millions d'euros pour les États. Et même quand les États gagnent, ça leur coûte quand même des millions d'euros en divers frais.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous regrettez dans la politique européenne et internationale, finalement, c'est la perte de souveraineté des États. Et avec ce que vous nous dites, on comprend que de tels accords commerciaux, donc c'est l'OMC, c'est la GECS, aujourd'hui on parle de CETA, de TAFTA, ces accords commerciaux, finalement, ont un droit qui vient être supérieur au droit des États.
Et oui, voilà, et de plus, ces traités sont vraiment négociés avec une très grande opacité. Et si ces traités viennent à passer, ce sera vraiment la fin des services publics, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les multinationales auront le droit d'attaquer les États pour quoi que ce soit qui ne leur irait pas, comme par exemple empêcher une entreprise de polluer, leur donnera la légitimité pour attaquer un État. Et il y a déjà divers exemples dans le monde de ce qui se passe avec ces tribunaux, et ça se solde par des centaines de millions d'euros d'amende pour les États.
Oui, parce que ce droit-là existe déjà à travers l'Organisation mondiale du commerce, les accords généraux sur le commerce et les services, etc. Oui. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de notre temps de parole partagé.
Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité.
Mais c'est nous qui vous remercions d'être venus jusqu'ici. Et puis, on vous souhaite bonne suite dans ces élections.
Je vous remercie.
Merci.